Et chères auditrices, nous continuons la série concernant le salut. Nous en sommes à l'étude numéro 10. Aujourd'hui, nous aurons comme titre la sécurité éternelle. Est-ce que vous avez, chers amis à l'écoute, cette sécurité? Sinon, pourquoi pas? Dans le monde moderne et matérialiste d'aujourd'hui, la plupart des gens désirent et cherchent diligemment la sécurité. Certains la cherchent en finance, d'autres en emploi assuré, d'autres en mariage, etc., etc. Pourtant, très peu de gens semblent apprécier la sécurité la plus grande que possible, c'est-à-dire ce que Dieu offre librement par Christ crucifié, la sécurité éternelle. Elle s'applique non seulement à cette vie, mais, écoutez bien, mais aussi à celle qui va venir. Alors, encore une fois la question, avez-vous cette sécurité? Le diable, ce vieil architrompeur, dérobe aux multitudes la bénédiction de Dieu en sécurité éternelle par ses mensonges habiles, par les plaisirs matériaux de ce monde, par les plaisirs du péché qui ne durent que pour un temps. Il a aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'ils ne puissent pas voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ et qu'ils soient sauvés. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Vous pouvez donc noter ces citations bibliques et les relire tranquillement quand vous en avez un moment. Quand Satan aveugle l'intelligence, cela veut dire que le pécheur ne peut pas penser justement concernant son véritable besoin et la disposition de Dieu pour remplir ce besoin, c'est-à-dire Christ crucifié. Dieu peut seulement accorder ainsi le salut, la sécurité éternelle, etc., au pécheur, par qui? Seulement par Jésus-Christ. Car seulement la foi en lui, en Christ, par principe de grâce, sur la base du sang versé de Jésus-Christ, pourra vous apporter cette sécurité. Seulement la sécurité éternelle en Christ, elle vous protégera. Oui, mes chers auditeurs et chères auditrices, elle vous protégera de la tempête de colère divine et de la punition éternelle de l'enfer que votre péché et votre condition totalement dépravée méritent justement. Chers auditeurs, ne vous trompez pas comme la majorité. Chaque jour, ils pensent qu'on est rétro, qu'on est peut-être un peu fêlé. Peut-être vous êtes honnête et moral dans votre vie. Pourquoi pas? Il y en a qui sont justes et équitables dans toutes leurs relations avec leurs semblables, tels que être un bon mari, une femme respectueuse, un enfant poli et obéissant, un serviteur fidèle, un bon maître, et cependant pas sauvé. pas sauver. Il y a des gens comme ça qui ont jamais glissé sur une peau de banane et qui ont apparemment une vie absolument parfaite. Et on pourrait presque dire, c'est presque des saints. Peut-être vous assistez même à votre église avec la plus grande régularité, et cependant, vous êtes toujours sur le chemin spacieux, voyageant à la perdition. Peut-être vous communiez même à vous penser, à vous gargariser de ce que vous êtes merveilleux par rapport aux autres à côté de vous, autour de vous. Vous êtes certainement un membre apprécié de l'Église. Pourquoi pas quelqu'un qui donne généreusement pour les causes de charité? Vous êtes peut-être même un responsable pour l'école du dimanche, un prédicateur, et en même temps, vous êtes tout de même un pécheur perdu et coupable. Être un prédicateur ou une prédicateur ne veut pas dire être sauvé. Oui, dans ce cas-là, la colère de Dieu demeure sur vous, selon Saint Jean, chapitre 3, verset 36. Et de qui la fin sera la damnation? Si vous mourrez, par exemple, dans cette condition-là, chers amis, êtes-vous vraiment sauvés? Peut-être vous pouvez dire que vous êtes aussi bon que, au mieux, que la plupart de vos prochains, mais cela est une déception droite de l'ennemi, car devant Dieu, il n'y a point de distinction, car tous les pécheurs sont coupables et déjà jugés, selon Romains, chapitre 3, verset 23, et Saint Jean, chapitre 3, verset 18. Quoi que vous soyez devant les hommes, peut sembler quelque chose. Vous êtes certainement important. Mais la chose la plus importante, est-ce que vous êtes devant Dieu? Comment êtes-vous devant Dieu? C'est-à-dire, êtes-vous coupable devant Dieu? Une question délicate. Et pourquoi seriez-vous coupable? Écoutez un peu la voix de Dieu, c'est-à-dire tous ont péché. Et cela veut dire vous et moi, j'ai dit moi y compris, croyez-le. Et c'est vrai, si vous voulez que votre péché soit pardonné, si vous voulez, comme Abraham, croire à Dieu, Romains chapitre 4, verset 3, c'est-à-dire, là vous devez croire à ce que Dieu dit, à ce que Dieu fait. Cela signifie croire de tout votre cœur à toute la sainte parole de Dieu, chaque chapitre, chaque mot et chaque ligne. Si un seul péché a rendu Adam et Ève impropre à la présence de Dieu dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire demeurer dans un paradis terrestre, un seul péché aussi peut vous rendre impropre à demeurer avec Dieu dans son paradis céleste. Souvenez-vous que tous ont péché, et croyez-le. Mais c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu, il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, 1 Timothée chapitre 1 verset 15. Chers amis, vous a-t-il sauvé Jésus-Christ? Peut-être vous n'avez pas conscience de votre culpabilité et de votre méchanceté devant Dieu, mais c'est vrai quand même concernant votre condition coupable. Permettez-moi de vous rappeler que vous avez affaire à Dieu et à son évaluation de vous, et cette évaluation-là sera seule vraie. Romains chapitre 3, verset 23. Peut-être vous pouvez vous tromper, cela est pire, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu, et c'est à lui que vous avez affaire, soit maintenant, comme un sauveur, ou plus tard, alors là ça change tout, comme un juge. Quel est le premier pas vers le bonheur? C'est de sentir votre besoin de Christ et le poids de votre culpabilité devant Dieu. Cela sera accompli par le travail convaincant du Saint-Esprit qui vous fera croire véritablement toute la parole de Dieu ayant rapport à votre condition et à sa disposition pour remplir votre besoin en Christ. La première parole de Dieu en création révèle sa première loi, c'est-à-dire que la lumière soit. Genèse 1, verset 3. Ce qui est la loi d'illumination. Ainsi, dans le domaine de la nouvelle création, le salut, la première parole de Dieu est dans l'action d'illumination, ce qui est la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui brille en nous quand nous sommes sauvés. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Quand Saul de Tarse fut sauvé sur le chemin de Damas, il fut illuminé. Il a vu la lumière et il a vu Jésus. Dans Romains chapitre 5, Dieu décrit 4 fois les pécheurs pour qui Christ est mort, c'est-à-dire A. Nous étions sans force, verset 6 de Romains chapitre 5. B. Christ, au temps marqué, est mort pour les impies, verset 6. C. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, verset 8. D. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils bien-aimé. Verset 10. Comme la grâce et la vérité brillent si merveilleusement ensemble dans ces versets, ne trouvez-vous pas? Voyez-vous ici le pécheur impur et malade avec le remède divin et sacré de Christ. Ils sont vus ensemble et notre culpabilité est complètement révélée. Mais c'est dans la lumière de la grâce de Dieu tout cela. Le péché apparaît dans le même contexte et c'est au péché que Christ a affaire. Car voyez-vous, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Je répète, le Père Céleste, Dieu, a fait devenir en lui, en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, il a fait devenir péché pour vous, pour moi, afin que nous devenions en lui, en Jésus-Christ, justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Quand notre véritable caractère est complètement révélé, c'est dans sa couleur la plus sombre, c'est-à-dire être sans force, impie, être pécheur et ennemi, afin que nous puissions connaître la puissance du sang de Christ qui nous purifie de la culpabilité et la force de nos péchés. Mon cher ami, soyez honnête avec vous-même, c'est la moindre des choses. Et soyez honnête avec Dieu et croyez simplement à la vérité qu'il essaye de vous transmettre. Dites-vous que, je veux le dire comme si c'était pour moi, je reconnais que je suis un pécheur coupable, mais Jésus est mort pour moi, et de ce fait, il est aussi mort pour toi. Si vous refusez d'accepter cette véritable description de vous-même dans Romains chapitre 5, alors vous êtes en train de vous exclure de la miséricorde du salut et de la sécurité éternelle de Dieu. Souvenez-vous, un canot de sauvetage est certainement pour ceux qui se noient. Un médecin, il est pour ceux qui sont malades. Et un sauveur est tout simplement pour les pécheurs. Ne blâmez pas la véracité de mes paroles qui vous avertissent en termes précis de votre danger. Il vaut mieux être troublé de votre sécurité charnelle et de votre fausse espérance dans cette vie que se damner éternellement dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Saint Marc, chapitre 9, versets 43 à 46. Dans la géhenne, il y aura des ivrognes, mais pas de boisson. Il y aura des fumeurs, mais pas de cigarettes. Il y aura des adultères, mais pas la possibilité d'en faire. Il y aura des pécheurs, mais pas de salut et pas d'espérance. Seulement des pleurs et des grincements de dents, du tourment dans les flammes éternelles à jamais. S'il vous plaît, fuyez la colère à venir et faites-le maintenant, car maintenant je m'adresse au cœur de ceux qui ont commencé à rechercher le Seigneur. Une partie de votre besoin, c'est que vous êtes déjà sensible au besoin de faire pardonner votre péché par la personne et par l'œuvre complète de Christ, pas par soi-même, pas par vous-même, pas par la justice seulement, ni par les bonnes œuvres, non plus par l'Église la plus puissante du monde ou par son clergé. On ne peut pas l'acheter, le salut, avec de l'argent. Son prix est le prix de la rançon du sang versé du Seigneur Jésus qui sert d'expiation pour vos âmes. Lévitique chapitre 17 verset 11. J'ai dit Lévitique chapitre 17 verset 11 et 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Il est possible que vous pensez que l'Ancien Testament c'est vraiment quelque chose qu'on ne devrait même jamais nommer, que c'est le pire qu'on peut faire. Mais j'ai ajouté, pas seulement Lévitique 17, verset 11, Ensuite, j'ai dit 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Voyez-vous, la Bible est un ensemble et croyez-moi ou pas, il vaudrait mieux être assez humble pour essayer d'y croire. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux, chapitre 9, verset 22, et ça ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. N'est-elle pas une pensée bizarre que nous ayons presque le pouvoir illimité de pécher, mais nous n'avons aucun pouvoir d'expier les péchés quand on les commet. Et cela ferme la porte à tout orgueil d'homme et le sépare entièrement de Dieu. Romains chapitre 6, verset 23. Dieu lui-même, il est la seule source de bénédiction spirituelle pour les pécheurs. Et il veut vous sauver, chers auditeurs, une fois pour toutes. Considérez un peu Saint Jean, chapitre 3, verset 16. A. Dieu aime le monde, cela veut dire vous. B. Dieu donne son Fils unique pour vous. C. Dieu sauve quiconque croit en lui, même vous. Donc, quand Dieu sauve le pécheur, il périra jamais, mais il aura la vie éternelle. Dieu sauve les pécheurs seulement par Jésus-Christ, car il est juste et justifie celui qui a la foi en Jésus-Christ. Romains 3, verset 26. Comment l'obtenir alors, cette vie éternelle? Que faut-il faire? Il faut chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve et l'invoquer tandis qu'il est prêt. Ésaïe, chapitre 55, verset 6. Il est dit, quiconque invoquera, c'est important, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Actes chapitre 2 verset 21. Vous le cherchez dans la repentance, c'est-à-dire en abandonnant et en vous détournant de votre péché, le péché de ce monde. Et tout cela par l'œuvre du Saint-Esprit. Vous l'invoquez en la foi croyante, en prenant Dieu au mot, sans question. Vous invoquez et Dieu répondra. Croyez et Dieu sauvera. Il vous sauvera. Simplement en lui faisant confiance. Donc, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Saint Marc chapitre 1 verset 15. Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Saint Jean chapitre 8 verset 11. Vous avez maintenant la preuve de péché pardonné et péché abandonné. Que le langage de votre cœur soit « L'agneau de Dieu est mort pour les pécheurs. Jésus-Christ est une victime sur le bois. Il s'est donné en sacrifice pour délivrer les coupables. Il a pris la place du pécheur coupable » et a souffert à sa place pour l'homme. Ô miracle de grâce, car le Sauveur a versé son sang précieux pour vous racheter. Je ne cherche pas autres arguments, je ne veux pas autre défense. Il suffit que Jésus-Christ est mort et il a ressuscité pour moi. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon Romains, chapitre 10, verset 10. Quand vous êtes sauvés, dites simplement dites-le simplement à quelqu'un. Oui, c'est ce que j'aimerais vous dire. Puisque vous avez accepté Christ, le Sauveur, pourquoi pas le dire à quelqu'un? N'ayez pas honte. Si j'ai honte de Christ, il pourrait un jour avoir honte de moi. Ça, c'est très sérieux. Alors confessez, pourquoi pas, ayez du courage. Confessez publiquement que vous êtes maintenant un véritable chrétien, une véritable chrétienne, car quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains 10, verset 11. Chers amis, bien sûr que terminer ce que nous venons d'entendre ensemble est quelque chose de délicat, parce que il y a des choses vraies, des choses authentiques, mais que des personnes un peu qui se croient un peu au-dessus de tous les autres vont dire, mais celui qui parle maintenant, c'est un arriéré mental. Il est peut-être trisomique, va savoir. Il est complètement à côté de la plaque. Eh bien, je veux vous dire, même si je suis complètement à côté de la plaque, un témoignage vrai, ça s'est passé en Angleterre. The Shame of Sin. Il y avait à New York, si vous vous rappelez, une histoire avec un certain Dedesca, et il y avait là, pas deux ou trois, des milliers de femmes avec des pancartes et qui criaient quand il est passé, je crois, avec des chaînes aux pieds. Ça ne devait pas être drôle du tout pour un homme aussi tellement important. Et ils lui ont crié « Shame to you !» Alors, je vais vous raconter l'histoire vraie d'une petite fille. Le titre, c'est « The Shame of Sin », la honte du péché. À Lockport, voici quelques années, un caissier détourna l'argent de sa banque pour faire un investissement. Ces jours-ci, il semble qu'un policier bien coté, bien à tout rapport, estimé, a peut-être, ça se saura bientôt, si c'est pas lui, c'est un autre, subtilisé des kilos de drogue d'un endroit où personne aurait le droit d'y aller pour le chercher. Eh bien, ça existe, voyez-vous, même des gens haut placés, à l'abri de toute critique. Alors ici, à Lockport, un caissier, bien noté, quasi-judicier vierge, a tout de même détourné l'argent de sa banque pour faire un investissement. Et il espérait, bien sûr, réussir dans ses spéculations et replacer l'argent plus tard dans le coffre. Ce sont des nobles pensées, mais est-ce qu'on peut toujours les réaliser? C'est pas dit. Mais son investissement s'avéra mauvais et il ne put pas remettre l'argent à la banque. Pendant un temps, par une manipulation à droite dans les livres de compte, il a réussi à dissimuler son forfait. Mais un jour, le gérant de la banque, parcourant les livres, aujourd'hui c'est par Internet, s'aperçut que quelque chose n'allait pas dans les comptes. Il y avait là quelque chose de pas très catholique. Il les examina plusieurs fois et découvrit les lignes des chiffres qui avaient été manipulées. Il appela le président de la banque, qui est un de mes chers amis, parce que c'est un témoignage, je vous l'ai dit, et lui dit « Les livres de compte sont faussés. Votre caissier est peut-être un malhonnête. » Ils convoquèrent donc le caissier, qui fut obligé de confesser son forfait. C'est comme ce policier ou ces policiers qui, un jour ou l'autre, devront sûrement avouer, confesser. Alors il fut interrogé et même arrêté, et il fut envoyé dans une prison d'État pour une certaine période. Cet employé de banque avait un enfant, une très douce et très jolie petite fille. J'ai du reste la copie d'une photographie de cette fillette, et vraiment, on dirait un ange. La femme du président avait dit que c'était la petite fille la plus adorable qu'elle eût jamais connue. Peu après l'arrestation de son père, la petite fille rentra en courant de l'école pendant la pause du midi en pleurant comme si son cœur allait briser et dit à sa mère « Maman, va rendre tous mes livres. Je ne veux plus jamais retourner à l'école. » La mère s'opposant à cela, bien sûr, et elle a supposé que c'était quelque caprice d'enfant, et lui répond « Mais, ma chère fille, bien sûr que tu vas retourner à l'école, voyons. Je n'y retournerai plus jamais, » répondit la petite fille. « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» demanda la mère. « Eh bien voilà, » cria-t-elle, en pleurant. « J'étais en train de jouer ce matin à la récréation et Anne-Marie m'a dit « Ton père est un voleur. » Quelle cruauté ! Cet enfant aurait tout aussi bien pu enfoncer une dague dans le cœur de sa camarade. Cette frêle fleur commença à s'étioler et à tomber très malade au point qu'il fut nécessaire de la tenir au lit. La mère appela le médecin. Celui-ci écouta l'histoire et examina attentivement l'enfant. Et il dit à sa mère, « Je ne peux hélas rien faire pour votre fille. son cœur ne veut presque plus battre, on le sent plus. Ça, c'est pas l'affaire d'un médecin. Son petit cœur est noyé de chagrin. Jour après jour, la petite meurtrit. Elle devenait de plus en plus fragile et faible. Il était donc évident qu'elle ne vivrait pas bien longtemps. La mère s'approcha de sa fille qui était si près de la mort et lui dit à l'oreille, « Ma chérie, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?»« Oh oui, maman. Amène-moi papa. » Et qu'il pose sa joue contre la mienne sur l'oreiller comme il le faisait avant. Mais c'était la seule chose qui ne pouvait pas se faire, car le père était derrière les barreaux. La mère s'adressa au juge qui avait condamné le père et essaya ainsi d'obtenir la possibilité, ou la permission plutôt, afin qu'il puisse rentrer chez eux, afin de voir son enfant mourant. Mais le juge, bien que fort sympathique, répondit « Non, non, c'est impossible. » Mais le cas fut réétudié, et cet homme fut donc ramené chez lui pour partager la souffrance. Il arriva tard à Lockport, flanqué d'un garde. Le docteur était là quand il entra et il lui dit « L'enfant dort, mais je pense que vous ferez bien d'entrer car elle ne vivra pas jusqu'au demain. Elle ne vivra pas jusqu'au matin. » Tout doucement aussi, silencieusement que possible, le père ouvrit la porte de la pièce dans laquelle la petite était supposée dormir et entra. La petite fille, levant la tête de son oreiller, le regarda. Elle cria « Oh, papa, je suis si contente que tu sois venue. Je savais que tu viendrais, car j'ai prié pour que Dieu t'amène ici. Je savais qu'il répondrait à ma prière. Viens, papa, mets ta tête auprès de la mienne. » Sur l'oreiller, comme tu le faisais toujours. » Le père, complètement bouleversé, s'approcha de sa fille mourante, posa près de la sienne sa tête sur l'oreiller. Avec sa petite main pâle, elle lui caressa la joue. Puis, elle s'endormit pour l'éternité. L'enfant était morte pour la honte et par la honte du péché de son père. Souvenez-vous toujours que lorsque vous péchez, un jour, vous devrez en répondre. Votre péché vous découvrira à votre conscience, à votre famille, à votre maison, à la honte publique et finalement au grand jour du jugement de Dieu à ou en l'enfer. Un seul vrai refuge, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul recours pour vos péchés passés. Il est en le Seigneur Jésus-Christ, le Jésus personnel, le Christ de Dieu qui est mort et a expié nos péchés. Celui qui a ressuscité et qui est maintenant le Sauveur vivant, il a le pouvoir de pardonner le péché, de sauver totalement tous ceux qui viennent à Dieu par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Chers amis, nous allons terminer par la prière. Voyez-vous, quand Dieu a donné son Fils et quand Jésus a donné sa vie il l'a donné pour vous racheter de la domination du péché. Je répète, il a donné sa vie à la croix où il a versé son sang précieux pour vous racheter de la domination du péché. Ça, c'était la preuve de l'insondable amour de Dieu et de sa volonté de partager sa vie avec vous. C'est votre seule base pour vous approcher de Dieu en tant que pécheur, sachant qu'il vous accordera son plein pardon et qu'il vous communiquera sa propre justice. Sachant ceci, venez devant lui à l'instant même et faites la prière suivante. Dites chaque mot de tout votre cœur et en toute sincérité et humilité. Répétez simplement après moi les phrases que le Seigneur me donne dans le cœur par l'Esprit Saint pour vous les transmettre maintenant. Répétez donc tranquillement. Cher Seigneur, je confesse que j'ai péché contre toi. Je suis condamné par ta loi à la mort éternelle, parce que ta parole dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, et le salaire du péché, c'est la mort. Parce que j'étais coupable du péché, j'étais séparé de ta présence, j'étais effrayé, tourmenté, perdu et indigne de ton amour. Je ne pouvais pas m'approcher de toi sans ce terrible sentiment de culpabilité. Mes péchés et mon incrédulité me condamnaient. Mais je comprends maintenant que Jésus est mort sur la croix pour moi. Il a souffert à ma place. C'était moi qui aurais dû être crucifié. C'était moi le coupable. Je sais maintenant que Christ a été crucifié pour mon péché. Il a payé pour ma rébellion. Le salaire de mes péchés était la mort, et Jésus est mort pour moi. Il s'est substitué à moi en se chargeant de mes péché. Cher Seigneur, je sais que nul crime ne peut être puni deux fois. Quand une dette est acquittée, cette dette n'existe plus. Il n'y a pas lieu de la payer une deuxième fois. Puisque Jésus-Christ a subi le châtiment entier de chaque péché que j'ai commis, sciemment ou non, je n'ai plus aucune peine à subir et ma dette n'existe plus. Cela veut dire qu'il ne reste aucune trace de mes péchés parce que Jésus a purgé ma peine, donc rien ne me sépare désormais de toi. Je te remercie, ô Seigneur, de cette bonne nouvelle. je te remercie de me donner maintenant ta vie et ta nature en me donnant la justice de ton propre Fils Jésus-Christ. C'est un miracle que je ne peux comprendre, mais puisque ta parole le dit, je le crois. Ici et maintenant, j'accepte le don de ta justice. J'accepte Jésus-Christ dans ma vie. Je te reçois maintenant, parce que ta vie divine m'est désormais impartie. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus un pécheur et mes anciens péchés ne me condamnent plus. Ils sont tous payés. Il n'en reste aucune trace. Ils n'existent plus. Je suis donc sauvé. Maintenant, Jésus-Christ, il vit en moi. Je peux paraître devant toi sans aucun sentiment de culpabilité, puisque tu m'as pardonné, et sans complexe d'infériorité, puisque tu m'as admis dans ta famille royale. Je suis maintenant ton enfant, et tu es mon père. Ta justice est la mienne, ta vie est ma vie, ta nature est la mienne. Je suis à toi, tu es à moi. Mes péchés ont été mis au compte de Jésus-Christ et il en a payé le prix. Sa justice est mise à mon compte et je suis né de nouveau. Je me réjouis maintenant de l'abondance de ta justice que tu m'as donnée. Amen. Amen. Et chers amis, Dieu voulant, à demain matin, pour la suite de cette série concernant le salut. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.